Il est 6h44 en temps universel. Nous sommes le mercredi 26 février 2025. Dans l'actualité, le président ukrainien attendu à Washington vendredi, Volodymyr Zelensky pourrait y signer l'accord sur les minerais ukrainiens voulu par Donald Trump pour compenser les milliards de dollars versés à Kiev par l'administration américaine. Avant lui, c'est le premier ministre britannique Keir Starmer qui est attendu à la Maison Blanche. Et pour faire le point sur cette visite et celle précédemment du président français Emmanuel Macron, eh bien, les dirigeants des 27 États membres de l'Union européenne se réunissent aujourd'hui par visioconférence. Les Américains laissent entrevoir de nouvelles négociations sur la deuxième phase de trêve entre Israël et le Hamas. Les deux parties ont en tout cas trouvé un accord pour la libération de 602 prisonniers palestiniens. Ils vont finalement être relâchés en échange des corps de 4 otages israéliens. Une dizaine de ministres français réunis autour de François Bayrou cet après-midi pour un conseil interministériel de contrôle de l'immigration. Avec le chef du gouvernement, ils discuteront, selon Matignon, de la maîtrise des flux migratoires et des moyens nationaux, européens et diplomatiques pour renforcer les contrôles. Cette réunion est organisée quelques jours après une attaque au couteau à Mulhouse, dans l'est de la France. Le suspect est un Algérien visé par une obligation de quitter le territoire français. Paris accuse l'Algérie de l'avoir refusé à 10 reprises. C'est un témoignage très attendu par les victimes, celui de l'ancienne épouse de Joël Le Squarnec. Elle est attendue au 3e jour du procès de cet ancien médecin, jugé dans l'ouest de la France pour violence sexuelle sur 299 patients, la plupart mineurs. L'électricité de retour dans 90% des foyers au Chili après une énorme panne de courant. Presque la totalité des habitants du pays ont été concernés. L'état d'urgence et un couvre-feu avaient été décrétés pour la nuit, notamment dans la capitale à Santiago où des rames de métro ont dû être évacuées. Le gouvernement chilien a écarté la possibilité d'un sabotage et évoque plutôt un dysfonctionnement du système. L'actualité aussi dans les médias africains. Bonjour Frédéric Couteau.
Bonjour Clotilde, bonjour à tous.
Et à la une, l'économie sénégalaise qui est en difficulté.
Il y a 15 jours, la Cour des comptes sénégalaise rendait son verdict après 10 mois d'audit. L'encours de la dette du pays représentait 99,67% du produit intérieur brut à la fin de l'année 2023 et le déficit budgétaire 12,3% de ce même PIB. Des chiffres bien plus élevés que ceux présentés par les anciennes autorités sous la présidence de Macky Sall au pouvoir jusqu'en avril 2024. Alors, relève le soleil à Dakar. Si ces chiffres peuvent sembler éloignés du vécu des Sénégalais, ils traduisent pourtant des réalités tangibles. Des hôpitaux qui manquent de médicaments, des écoles sans matériel de base et des infrastructures inachevées qui freinent le développement local. Le lien entre une gestion budgétaire insuffisante et la qualité de vie des populations est indéniable. Et ce rapport de la Cour des comptes vient rappeler que chaque erreur ou irrégularité dans l'utilisation des fonds publics se répercute directement sur les services sociaux et les conditions de vie des citoyens.
Et conséquence de ce rapport, lundi, l'agence de notation Moody's a dégradé la note souveraine du Sénégal pour la deuxième fois en quelques mois, en la baissant à B3.
Oui, le quotidien 24 heures, toujours à Dakar, s'emporte contre ces agences internationales de notation qui donnent le droit à une agence occidentale biaisée de juger la solvabilité de pays dont elle ne contrôle ni les richesses ni l'avenir. Les pays riches en or, en gaz, en pétrole, en fer, en uranium et en lithium, tous classés à risque, et des pays riches en ressources considérés comme pauvres, tandis que ceux qui vivent de leur richesse notée AAA, quelle supercherie.
En tout cas, concrètement, précise le site d'information Séné+, cette dégradation de la note de crédit aura des répercussions majeures sur l'économie sénégalaise.
Oui, l'accès au financement deviendra plus difficile car le Sénégal devra faire face à des coûts d'emprunt plus élevés sur les marchés internationaux, ce qui pourrait limiter sa capacité à financer des projets d'infrastructure et des programmes sociaux essentiels. Les investissements étrangers risquent également de diminuer, une note plus basse pouvant dissuader les investisseurs, craignant une instabilité économique accrue et un risque de défaut de paiement. À court terme, relève encore Séné+, le gouvernement devra probablement adopter des mesures d'austérité pour tenter de stabiliser les finances publiques. À moyen et long terme, des réformes structurelles seront nécessaires pour restaurer la confiance des investisseurs et remettre l'économie sur une trajectoire de croissance durable.
Et en attendant, malgré donc sa faible marge de manœuvre, le gouvernement sénégalais a annoncé vendredi dernier une deuxième vague de baisse des prix des denrées de première nécessité.
Alors attention, prévient Wolf Quotidien, cocktail explosif pour l'industrie locale. Si l'État n'accorde pas des subventions, il lui sera difficile d'obtenir de la part des entreprises une seconde baisse consécutive en l'espace de 7 mois. Ce qui pourrait être pour ces entreprises de l'agroalimentaire la dernière piqûre mortelle. Vouloir demander à nouveau un effort à ces entreprises équivaudrait à tuer la vache et à ne plus avoir à la traire le lendemain pour se faire son petit lait. Tout le monde se rappelle, pointe encore Wolf Quotidien, du désarroi des meuniers, boulangers, huiliers de la compagnie sucrière sénégalaise, des usines et autres producteurs agricoles après les baisses du mois de juillet qui avaient été mal digérées au point que certains d'entre eux avaient carrément décidé d'arrêter leur production. Seront-ils encore les agneaux du sacrifice pour satisfaire l'amélioration du pouvoir d'achat des Sénégalais ? Mystère et boule de gomme.
En tout cas, pour en revenir à la situation économique globale du pays, elle est compliquée, mais rien ne sert d'être alarmiste.
Oui, des propos tenus dans les colonnes du Monde Afrique par Mamadou Lamine Ba, économiste spécialisé dans l'investissement. Et en effet, pointe le journal, la Banque mondiale table sur une croissance de 9,7% pour cette année 2025 au Sénégal. La puissance publique peut aussi se reposer sur une nouvelle manne financière. La compagnie pétrolière australienne Woodside a annoncé en effet récemment la vente de 12,9 millions de barils de pétrole issus du champ de Sangomar, entré en exploitation en juin dernier, pour des revenus estimés à 950 millions de dollars. L'État sénégalais devrait en retirer entre 15 et 40%.
Frédéric Couteau pour la revue de presse africaine. Comment vont-elles se réorganiser ? Les plus de 500 banques publiques mondiales de développement se retrouvent à partir d'aujourd'hui au Cap, en Afrique du Sud, en plein démantèlement par Donald Trump de l'USA et de l'Agence des États-Unis pour le développement international. Ce sera forcément dans tous les esprits au cours de ce sommet finance en commun présidé par le français Rémy Rioux, le directeur général de l'AFD, Agence française de développement. Il est en ligne depuis le Cap avec Christophe Boisbouvier.
Rémy Rioux, bonjour.
Bonjour.
Ce mercredi, vous présidez au Cap en Afrique du Sud le sommet annuel de finance en commun qui réunit les 529 banques publiques de développement du monde entier. Mais vous savez que l'aide au développement n'a pas toujours bonne presse. Comment rapprocher vos banques de développement des citoyens ?
Alors oui, je suis très honoré qu'on réunisse 2500 personnes aujourd'hui au Cap pendant 3 jours. 350 invités de haut rang qui viennent intervenir et parler effectivement de la transformation en cours du monde du financement du développement. On a lancé cette initiative au cœur du Covid en 2020 et ça marche très très bien. L'idée est très simple en fait, c'est rassembler toutes les banques publiques de développement du monde. Effectivement, vous avez raison, il y en a plus de 500. C'est pas seulement l'AFD ou la Banque mondiale, les banques internationales, c'est surtout aller chercher les banques nationales, celles qui font la transformation de leur propre pays. On est tous là parce que, la France a une belle, grande ambition internationale de coopération pour le climat, pour l'égalité entre les femmes et les hommes, pour la croissance verte. Et ça produit beaucoup de résultats. C'est des centaines et des centaines d'institutions financières qui font des prêts, des investissements. Voilà, tous ceux qui ne veulent pas laisser tomber la coopération internationale dans ce monde dangereux où nous sommes.
Alors, comme vous le dites, les temps sont durs. La suppression de l'USAID par Donald Trump, la nette diminution de l'aide publique de la France par François Bayrou, est-ce que c'est le signe que la solidarité internationale est en crise ?
Alors, je crois que tout le discours de l'aide, en fait, est maintenant en train de s'effacer. Et je crois, et c'est très précisément ce que nous faisons ici à FIX, à Finance en commun, que nous sommes en train de passer dans un discours d'investissement solidaire et durable. C'est le mot même du président de la République, Emmanuel Macron, depuis des années. Et ça veut dire quelque chose, évidemment, un investissement, ça veut dire qu'on croit dans les pays dans lesquels on intervient, au point d'y investir. Et puis, investissement, ça veut dire qu'on en attend, bien sûr, un retour. Donc oui, vous avez raison. Je crois que ce qui se passe aux États-Unis d'Amérique, c'est un choc, évidemment, et c'est aussi un signe que tout ce monde du financement du développement est en train de se transformer avec le changement du monde et les attentes de nos populations. Je crois que nous l'avons capté, nous l'avons depuis 5 ans même mis en forme. Nous l'organisons avec ce sommet ici au Cap.
Du côté des États-Unis, l'USAID représentait quelque 40% de l'aide au développement mondial. Alors du coup, est-ce que l'aide mondiale va diminuer de 40% ou est-ce que le vide va être comblé par notamment l'Union européenne et la Chine ?
Non, je me permets de vous corriger, Christophe Boisbouvier. L'aide américaine, c'est 60 milliards. L'aide publique au développement total, telle que déclarée à l'OCDE, c'était 225 milliards l'année dernière. Donc vous voyez, on n'est pas du tout sur 40%. Et il y avait en vérité, entre les États-Unis et l'Europe, une sorte de deal. C'est-à-dire les États-Unis faisaient 40%, mais des dépenses de défense et des dépenses humanitaires, qui ne sont qu'une fraction de ce qu'on appelle l'aide au développement.
Et les 40% que les Américains apportaient dans l'aide humanitaire mondiale, comment ce vide va-t-il être comblé alors ?
Ça, c'est une question qu'il faut poser, bien sûr, au gouvernement, d'abord, de tous les pays du monde. Donc c'est d'ailleurs pour cela que nous sommes ici avec le G20. Il est un petit peu tôt pour répondre, mais je tiens à dire quand même que la place de l'Europe dans ce monde du financement du développement, c'est quelque chose dont nous devons être fiers.
Du côté de la France, l'APD, l'aide publique au développement, va baisser cette année de 15%. À l'heure où les pays européens doivent doubler leur budget militaire pour faire face à la nouvelle alliance Trump-Poutine, est-ce que l'aide publique au développement ne risque pas de disparaître tout simplement d'ici 2030?
Il faut plus de moyens pour l'action internationale, vous avez raison. C'est vrai dans le domaine de la défense. La guerre est en Ukraine, évidemment, mais il faut marcher sur ses deux jambes. Et je crois qu'il faut aussi garder une capacité significative pour se lier positivement avec nos partenaires, ceux qui veulent coopérer avec la France. Et les deux sont d'ailleurs liés, puisque vous savez, l'AFD, par exemple, a un mandat en Ukraine pour appuyer les municipalités ukrainiennes pour faire face aux disruptions qu'entraîne la guerre sur son territoire. Donc, il ne faut pas opposer les deux. Puis après, sur les financements de la France, je vous renvoie simplement aux propos du Premier ministre François Bayrou, qui, dans son discours de politique générale, a indiqué, bien sûr, que toutes les politiques publiques devaient contribuer au rétablissement des comptes publics, mais qu'il examinerait, à partir de 2025, comment reprendre une trajectoire positive pour le financement du développement.
Rémy Rioux, merci.
Rémy Rioux, le directeur de l'Agence française de développement, interrogé par Christophe Boisbouvier. Allez, 6h55 en temps universel avant le prochain journal international. Vous nous parlez aujourd'hui, Maman, d'un mot très à la mode au Gondwana. La résilience.
Oui, en très démocratique république, les mots sont très importants et on peut dire sans peur de se tromper qu'au Gondwana, tout n'est que mots, paroles, parlotes, blabla. Comme dit le poète, dans ce pays, ben on se paye de mots ou, comme le résume si bien le Gondwanais lambda, les mots remplissent les oreilles mais pas les ventres. Paradoxalement et contre toute attente, dans ce pays, la magie des mots marche tout le temps et depuis très longtemps. Chaque époque est colorée, pimentée ou sucrée par un mot qui rythme alors toute la vie quotidienne du Gondwanais lambda parce que ce mot est craché en boucle dans les haut-parleurs médiatiques, dans les discours et les slogans, sur les banderoles et les professions de foi. Depuis quelque temps, le mot qui fait danser les gens en très démocratique république, le mot qu'on remixe sur tous les rythmes et qu'on cuisine à toutes les sauces, c'est la résilience. On l'entend partout, la résilience, tout le temps, au point où le Gondwanais lambda se demande si la résilience n'est pas un membre de sa famille. À force de l'avoir tout le temps, accolé au blason de la très démocratique république, il faut croire que la résilience est devenue la richesse numéro 1 du Gondwana. Bah oui, elle a remplacé le pétrole, le café, le cacao, l'uranium ou le coltan comme matière première vedette de la très démocratique république. Le gouvernement brandit la résilience du peuple gondwanais comme un flambeau, comme il brandissait les énormes richesses du sous-sol gondwanais. Tous les ministres passent de plateau TV à studio radio, de tribune des bailleurs de fonds aux rencontres avec les ONG, avec cet argument fort, répété à l'envi, le peuple gondwanais est résilient. Il fait preuve d'une résilience à toute épreuve. La preuve, le gondwanais lambda est félicité partout pour sa résilience sur tous les tons. Résilient est devenu son deuxième prénom au gondwanais lambda. Il l'accompagne partout, dans les flash infos, les campagnes publicitaires, les promesses électorales, les demandes d'aide internationale, partout. Mais attention, tout ceci se fait à l'insu du plein gré du gondwanais lambda. C'est les autres qui disent que le Gondwanais lambda est résilient, alors qu'il n'a rien demandé, lui. Il ne se promène pas dans les rues de Gondwana City, notre belle capitale, ou là-bas, sur les pistes défoncées du fin fond du Gondwana, en se répétant à lui-même « Je suis résilient. Je suis résilient. » Mais le Gondwanais lambda finit quand même par se rendre compte que même si la plupart de ces belles personnes habitent ici au Gondwana avec lui, il n'y a que lui qu'on qualifie de résilient. C'est là qu'il réalise que la résilience, c'est juste pour les pauvres, pour les gens d'en bas de en bas comme lui. C'est eux qu'on félicite d'être résilients. Parce que la résilience, c'est seulement pour ceux qui vivent dans la galère. C'est vrai quoi. T'as déjà entendu quelqu'un parler de résilience à propos des riches, à propos des en haut, de en haut? Ils n'ont pas besoin d'être résilients, eux, puisque tout va bien pour eux tout le temps. À demain.
À demain, Maman. Dans un peu plus d'une minute, un nouveau journal international avec à la une l'armée israélienne qui a intensifié ses opérations en Cisjordanie occupée. Reportage à suivre donc dans quelques minutes.
Tout à l'heure sur RFI, sur le Pont des Arts, Nathalie Amar. Balaké Sissoko, le maître malien de la kora, et Pierce Faccini, auteur, compositeur, interprète. C'est une collaboration qui dure depuis 20 ans, mais les voilà enfin réunis pour un premier album, Our Calling, notre appel. Ils nous parlent migration, celle des oiseaux et celle des hommes.
Sur le Pont des Arts, avec Nathalie Amar, du lundi au vendredi à 15h10 TU, sur RFI.
Afroclub, le hit des platines avec DJ Facemaker.
Je vous retrouve deux fois par semaine, le mardi et le jeudi, dans l'Afroclub, terrain incontournable des musiques afro-urbaines d'Afrique et de ses diasporas. Deux fois plus de groove, une séquence rétro indispensable et en prime, une vidéo des tendances de la semaine à voir sur RFI Musique et tous nos réseaux sociaux.
Afroclub, le hit des platines avec DJ Facemaker. Tous les mardis et jeudis dans Afrique Soir.
Couleur du son et RFI Talent présente Naïssam Jalal en concert. À l'occasion de la sortie de son dernier album Healing Rituals, autrement dit Rituel de guérison, retrouvez la flûtiste franco-syrienne sur la scène du New Morning à Paris le 27 février à 20h. Plus d'infos sur newmorning.com.